La silhouette de la statue de la Liberté rétrécissait peu à peu. Elle ne fut bientôt plus qu'un minuscule trait gris à l'horizon, puis disparut dans la brume. Le Bremen entamait sa traversée de l'Atlantique. La houle s'intensifia. Le navire plongeait et remontait. On sentait les machines tourner à plein régime.
« Est-ce qu'on reverra maman un jour ?»
demanda Kurt. Le jeune garçon, désormais âgé de 13 ans, était accoudé au bastingage à côté de Paul, le regard rivé sur l'endroit où, quelques minutes auparavant, on apercevait encore la ville de New York et la côte des États-Unis.
« Bien sûr qu'on la reverra, petit sot !»
répondit Dodo, avant que leur père ait pu prendre la parole. « On retournera l'an prochain à New York, peut-être même plus tôt.
Toute une année à attendre.
Elle passera plus vite que tu ne penses, Curtie. »
L'enfant se tut. Les mains serrées sur les barreaux blancs en métal du parapet, il fixait les vagues sombres que fendait le navire.
« Je crois que je vais de nouveau avoir le mal de mer !»
marmonna-t-il. Paul s'arracha à grand-peine à l'humeur dépressive qui l'accablait depuis quelques jours et qui s'était transformée en une douloureuse sensation d'oppression.
« Mais non, ça va aller !»
répliqua-t-il en caressant les cheveux bruns de son fils. Kurt avait hérité de la belle chevelure souple et bouclée de Marie.
« Si !»
insista Kurt.
« Je sens que je vais vomir !»
« Descendons dans la cabine !»
proposa Dodo.
« On va déballer les cadeaux que maman nous a donnés avant de partir !»
Sa stratégie produisit l'effet escompté. Kurt acquiesça et prit la main de sa grande sœur, qui se dirigea avec lui vers la porte.
« J'arrive !»
lança Paul.
« J'ai besoin de respirer encore un peu !»
Les deux enfants n'avaient sans doute pas entendu, car ils ne se retournèrent pas. Il n'insista pas. Quelle chance que Dodo s'occupe de son frère avec autant d'affection. Sa sollicitude adoucirait la douleur du petit et lui laisserait à lui le temps de recouvrer son équilibre intérieur. Cela avait été leur deuxième visite à Marie et Léo. La première remontait à 2 ans. Il s'était rendu seul à New York, car Kurt ne pouvait manquer l'école et Dodo fréquentait un internat suisse. À l'époque, il était rentré en Allemagne convaincu que cette terrible séparation ne tarderait pas à prendre fin et que Marie reviendrait dans sa patrie. À présent, il ne comprenait plus comment il avait pu nourrir pareil optimisme. Alors déjà, l'avenir de l'Allemagne se profilait sous les couleurs les plus sombres, mais il avait pratiqué la politique de l'autruche. Ses retrouvailles avec Marie avaient éclipsé tout le reste. Les quelques jours de félicité qu'ils avaient passés ensemble, à profiter de son petit appartement new-yorkais, à se promener à Central Park, à faire des excursions, avait filé à la vitesse de l'éclair. Après un bref moment de gêne, leurs sentiments avaient repris le dessus, et ils s'étaient retrouvés aussi amoureux qu'à leur début. Paul en avait tiré la conviction que rien ni personne ne pouvait les séparer. Ni cette civilisation, ni la vaste étendue de l'Atlantique, et encore moins Adolf Hitler, qui finirait bien par disparaître tel un affreux cauchemar. Quelle erreur! Le temps avait insidieusement travaillé à les rendre étrangers l'un à l'autre. Durant les 2 années qui venaient de s'écouler, il s'était écrit assidûment. Marie avait ouvert son propre atelier de mode, qui marchait si bien qu'elle avait pu prendre en charge une part importante des frais de scolarité de Dodo. Sa réussite avait inspiré une joie mitigée à Paul, car elle n'aurait jamais pu le faire sans le soutien financier du toujours aimable et jovial Karl Friedländer, qui se tenait invariablement à son côté. Ce mielleux individu lui avait tout bonnement volé son épouse bien-aimée. Certes, il savait que Marie lui était fidèle. Elle ne couchait pas avec cet homme. Mais Karl, comme elle l'appelait, bénéficiait de tout ce qui était si important dans la vie d'un couple. Les conversations familières, les rencontres quotidiennes, les regards d'intimité, les sourires, le sentiment d'être là l'un pour l'autre. Sans même parler de l'argent qu'il lui avait prêté et que Marie avait apparemment remboursé. Paul n'avait même pas la possibilité d'exprimer son exaspération. Non. Il était contraint de renfermer en lui sa colère et sa jalousie, et de feindre la gratitude. Tout cela lui était apparu avec une clarté accrue durant cette deuxième visite. Mais ce n'était pas tout. Il avait à présent perdu l'espoir que la situation s'améliore. Robert avait eu raison sur toute la ligne. Si au début les Juifs d'Allemagne avaient conservé le droit de faire du commerce et ne s'étaient vus interdire que certaines professions, ce temps était désormais révolu. Depuis les effroyables événements du mois de novembre de l'année précédente,
où l'on avait incendié les synagogues dans toutes les villes allemandes et envoyé en masse les hommes d'origine juive dans des camps, l'objectif de l'État nazi était clair. Ils voulaient priver de leurs droits et chasser tous les juifs qui vivaient encore dans le pays. Les résidents juifs d'Augsbourg étaient rentrés des camps le crâne rasé, le regard épouvanté. Presque tous s'étaient résolus à émigrer. Robert avait rapporté que l'État taxait très lourdement les candidats au départ, si bien qu'il ne leur restait guère plus que les vêtements qu'ils avaient sur le dos. Paul continuait à penser que Marie, étant son épouse, aurait été à l'abri de tout tracas. Mais cette fois, il avait renoncé à aborder le sujet. Soudain, il sentit qu'il avait froid. Il boutonna sa veste, qui se gonflait sous le vent. Les passagers accoudés au bastingage, qui avaient regardé le continent disparaître, s'étaient dispersés sur le pont. Frigorifiés, beaucoup s'étaient réfugiés dans leurs cabines. D'autres s'étaient installés confortablement sous une couverture dans les chaises longues disposées sur le pont. Paul prit une dernière grande bouffée d'air frais. Puis il descendit rejoindre Dodo et Kurt. Il voyageait en deuxième classe. Lui-même occupait une cabine extérieure avec son fils, tandis que Dodo partageait une cabine intérieure, moins luxueuse, avec une jeune Espagnole. Ce qui apparemment ne la dérangeait pas.
« Pour Kurti, c'est formidable de pouvoir voir la mer depuis son lit », avait-elle déclaré. « Moi, je m'en fiche. Si j'ai envie de respirer, je sors sur le pont. »
Sa fille, désormais âgée de 23 ans, n'ignorait pas que ce voyage était relativement coûteux. Dans un premier temps, elle avait refusé d'accompagner son père et son frère, au motif que la famille avait déjà dépensé beaucoup pour qu'elle puisse passer son baccalauréat en Suisse. Paul avait finalement réussi à la convaincre de venir, car Marie et surtout Léo brûlaient d'envie de la revoir après tant d'années de séparation. Il trouva Dodo et Kurt au milieu d'un monceau de boîtes et de papiers cadeaux. Marie avait dépensé sans compter. Et Léo leur avait fait aussi un présent. Et, comme de juste, l'inévitable Karl avait apporté sa contribution. Accroupi sur le sol, Kurt essayait avec enthousiasme ses nouvelles petites voitures de course, qui se déplaçaient d'elles-mêmes comme des bolides, sans qu'on ait besoin de les remonter avec une clé. À la villa aux étoffes, Paul et lui avaient construit un circuit automobile en bois qui occupait presque toute la chambre d'enfant et ne pouvait accueillir que les coûteux modèles réduits en fer blanc. Les exemplaires en caoutchouc plein qu'on lui offrait de temps à autre prenaient la poussière sur l'étagère, où ils étaient soigneusement alignés.
« Alors, qu'est-ce que tu as reçu d'intéressant ?»
s'enquit Paul avec un entrain factice.
« J'avais déjà la Mercedes !»
babilla Kurt.
« Mais c'est pas grave si j'ai maintenant deux flèches d'argent. Ça, c'est une auto-union type D, un modèle tout nouveau. Et c'est Léo qui me l'a offerte. Et Karl m'a donné une station-service. Regarde !» On peut soulever le tuyau et mettre de l'essence dans le réservoir de la voiture.
Malheureusement, il faut payer en dollars et en cents.
Laissa échapper Paul, après avoir survolé les indications écrites en anglais sur le jouet.
Ça ne fait rien, papa. Il nous reste encore des dollars, non?
Alors, dorénavant, je m'approvisionnerai chez toi, répondit Paul.
Moi aussi,
ajouta Dodo.
Une fois que j'aurai ma nouvelle auto.
Le véhicule de Marie, que Dodo avait conduit pendant un temps, avait été donné à Kitty, dont la petite bagnole avait fini par rendre l'âme. La tante Elvira avait souscrit un contrat d'épargne au nom de Dodo, afin de pouvoir acquérir un des derniers modèles Volkswagen, qui serait bientôt disponible pour 998 Reichsmarks. On versait 5 marks par semaine, et lorsqu'on avait mis de côté plus de 700 marks, on pouvait se faire inscrire sur la liste des postulants. L'usine automobile comptait débuter la livraison de sa voiture pour tous dès l'année suivante.
« 1 dollar le litre d'essence !»
proclama Kurt sur un ton sans réplique.
« Quoi ?»
se récria sa sœur.
« C'est un prix usuraire. Le litre coûte 39 pfennigs, ce qui est déjà bien assez. »«
Chez moi, ce sera 1 dollar !»
s'obstina Kurt. Et prenant sa nouvelle flèche d'argent, il la fit rouler sur les chaussures de son père.
Vroom!
Son début de mal de mer semblait s'être dissipé. Soulagé, Paul adressa un signe de tête approbateur à Dodo et se mit à ranger les boîtes et le papier d'emballage. Dans la grande malle se trouvaient d'autres cadeaux, destinés à Kitty, Annie et Robert, Gertrude, Tilly et sa petite famille, Lisa et les enfants, ainsi qu'aux domestiques de la villa.